Fyodor Dostoevskij, Дверной анекдот. Достоевский, une fâcheuse histoire. Ceci se passait au temps où, emportés par leur foi en la renaissance de notre chère patrie, les meilleurs de ses enfants s'élançaient enthousiastes vers de nouveaux espoirs et de nouvelles destinées. Par une nuit d'hiver, claire et calme, trois hommes respectables étaient réunis dans une chambre meublée avec confort, voire avec un certain luxe, d'une des belles maisons du quartier de Petersburgskaya Storona. Enfoncés dans des fauteuils profonds et moelleux, ces personnages, qui tous les trois avaient le rang de général, discutaient posément sur un thème très curieux, tout en avalant de temps en temps une copieuse rasade de champagne. L'hôte, le conseiller intime, Stéphane Nikiforovitch Nikiforov, célibataire de 65 ans, pendait la crémaillère dans une maison nouvellement achetée. Et il se trouvait en outre que son anniversaire, qui n'avait jusqu'alors jamais célébré, tombait précisément ce jour-là. À vrai dire, la fête n'était pas bien extraordinaire, puisqu'il n'y avait que deux invités, deux anciens collègues et ex-subordonnés de M. Nikiforov. Le conseiller d'État effectif, Semen Ivanovitch Chipulenko, et Ivan Ilitch Pralinsky, également conseiller d'État effectif. Venus à 9h pour prendre le thé, ils s'étaient attardés à boire et songeaient qu'ils devaient regagner leur domicile vers 20:30, car il faut dire que l'hôte était un homme méticuleux qui ne dérogeait pas à ses habitudes. Ayant commencé sa carrière en qualité de petit fonctionnaire, Stéphane Nikiforovitch avait traîné son boulet durant 45 ans, sachant d'avance à quoi aboutirait cette vie médiocre et régulière. Il n'aimait pas, comme on dit, ravir les étoiles au ciel, bien qu'il en portât deux sous le revers de son uniforme. Il lui répugnait particulièrement de manifester son opinion personnelle. Il pouvait se dire honnête en ce sens qu'il n'avait jamais eu l'occasion de commettre un acte indélicat. Il était resté célibataire par égoïsme. Bien qu'il ne fût point sot, il n'aimait pas faire montre de son esprit et détestait par-dessus tout l'enthousiasme qu'il considérait comme une malpropreté morale. Vers la fin d'une longue existence sans éclat, Stéphane Nikiforovitch se plongea dans un confort douillet dont il jouissait solitairement. Bien que parfois il fréquentât le monde, il avait toujours détesté recevoir. De sorte que, ces derniers temps, il se contentait de la société de la pendulette placée sur sa cheminée, et tous les soirs, à moitié endormi dans son fauteuil, il en écoutait paisiblement le tic-tac. Cette occupation était interrompue de temps en temps par un jeu de patience auquel le général se livrait sur sa table. D'un extérieur méticuleusement soigné, rasé de près, le dignitaire semblait plus jeune que son âge, et bien conservé, il promettait de vivre encore longtemps en parfait gentleman qu'il croyait être. Son emploi était confortable. Vous jugerez de son importance quand vous aurons dit que le général siégeait quelque part et signait quelque chose. Une passion unique, ou pour mieux dire un désir ardent, avait de tout temps illuminé sa vie. Posséder une maison bien à lui, non une maison de rapport, mais un hôtel particulier d'allure seigneuriale, désir qui venait enfin de se réaliser. Stéphane Nikiforovitch avait trouvé une maison dans le quartier de Petersburgskaya Storona, assez éloignée, il est vrai, mais très élégante et entourée d'un grand jardin. Le nouveau propriétaire se réjouissait même d'être ainsi éloigné du centre. Comme vous le savez, il n'aimait pas recevoir, et pour aller en visite ou pour se rendre à son bureau, il possédait une berline couleur chocolat à deux places, un cocher serf nommé Michel, ainsi que deux jolis et robustes petits chevaux. Ce résultat, dû à 45 ans de vie laborieuse et économe, faisait bondir son cœur de joie et de fierté. Et c'est pourquoi, aussitôt installé dans sa nouvelle demeure, le vieillard avait ressenti dans son âme sensible un tel bonheur qu'il invita exceptionnellement pour son anniversaire, jusqu'ici toujours caché avec soin, quelques proches connaissances. Il faut ajouter que l'hôte avait, sur l'un des invités, des vues particulières. Occupant lui-même le premier et seul étage, il lui fallait trouver un locataire pour le rez-de-chaussée, et Stefan Efikorovitch comptait sur Semen Ivanovitch Chipulenko. Ce soir-là, il avait déjà par deux fois amené la conversation sur ce sujet, mais l'interlocuteur visé gardait un silence circonspect. Cet homme, aux cheveux et favoris noirs, à la figure abondamment colorée de jaune par des accès de bile, avait lui aussi longuement et durement combattu pour se frayer un chemin dans la vie. Marié, il aimait la vie casanière. D'un caractère revêche, il tenait sa maison serrée. Il accomplissait son service avec assurance, et de même que son hôte, connaissait l'aboutissement de son activité, tout en sachant qu'il n'atteindrait jamais les hauteurs tant convoitées. Possesseur d'une belle place, il s'y cramponnait âprement. Les nouvelles idées, qui à cette époque pénétraient en Russie, le laissaient presque indifférent, ne provoquant chez lui ni colère ni crainte. C'est donc avec une sorte de méchanceté malicieuse que M. Chipulenko écoutait ce soir-là les exercices oratoires d'Ivan Ilitch Pralinsky, lequel s'étendait avec abondance sur les théories à la mode. Vous saurez que les trois convives avaient bu un peu plus que de coutume et que pour cette raison, Stefan Nikiforovitch avait daigné condescendre jusqu'à entamer avec M. Pralinsky une discussion légère sur l'ordre à venir. Ici, il faut que nous nous étendions un peu afin de donner au lecteur quelques renseignements sur le compte de son Excellence, M. Pralinsky. Nous y sommes d'autant plus obligés que ce dignitaire se trouve être le héros principal de notre histoire. Le conseiller d'État effectif Ivan Ilitch Pralinsky portait le titre d'Excellence depuis 4 mois seulement, de sorte que c'était encore un jeune général. Il n'était pas d'un âge avancé, il n'avait que 45 ans, et désirant paraître plus jeune encore, il y réussissait pleinement. Bel homme, grande taille et portant avec une élégance sûre des costumes de bonne coupe, il arborait avec une majesté parfaite la cravate de commandeur d'un ordre important. Dès son jeune âge, il avait su s'approprier quelques bonnes façons mondaines et avait rêvé toujours d'une fiancée riche et d'excellente maison. Du reste, Ivan Ilitch, qui pourtant n'était pas sot, rêvait souvent et à beaucoup de choses. Par moments, il se montrait beau parleur et aimait à prendre des poses de parlementaire. Fils lui-même d'un général, ayant porté dans son enfance costume de velours et de batiste, il avait été élevé dans une institution aristocratique. Bien qu'il n'en eût pas tiré grand savoir, il avait su se faire valoir dans son service et était rapidement parvenu à son grade actuel. Ses chefs le considéraient comme un homme capable, très capable même, et plaçaient en lui de nombreux espoirs. Mais Stefan Nikiforovitch, qui avait jadis été son supérieur, et sous la direction de qui Ivan Ilitch avait toujours continué à servir, était loin de le considérer comme un homme de haute valeur et ne faisait guère montre de confiance en son avenir. Le vieux général songeait pourtant avec plaisir que son subordonné, issu d'une bonne famille, était pourvu d'un avoir assez considérable, consistant surtout en une belle maison de rapport. Ce qui le flattait cependant le plus, c'était d'avoir sous ses ordres un homme apparenté à des gens influents et que, chose importante, s'imposait aussi par une belle prestance. Tous ces avantages n'empêchaient point le supérieur de blâmer souvent, bien qu'intérieurement, les excès d'imagination ainsi que la légèreté de caractère de son jeune collaborateur. Mais Ivan Ilitch était assez intelligent pour se reprocher aussi trop d'amour-propre et de susceptibilité. Chose étrange, quand il le faisait, il lui venait des scrupules maladifs et même une sorte de repentir. Alors il était obligé de s'avouer qu'il ne volait pas aussi haut qu'il le pensait. Il nous faut ajouter que ces moments d'abattement coïncidaient par un fait étrange avec des crises hémorroïdales. Il en concluait que sa vie était manquée, et perdant toute confiance en ses capacités de parlementaire, finissait ordinairement par se qualifier de hâbleur et de phraseur. Mais ces mea culpa, d'ailleurs tout à son honneur, ne duraient pas, et ne l'empêchaient point de relever la tête une demi-heure plus tard. Ivan Ilitch reprenait alors confiance, et déclarait in petto, avec d'autant plus d'outrecuidance, qu'il deviendrait non seulement un personnage, un dignitaire, mais encore un homme d'État, dont la Russie garderait longtemps le souvenir. Par moments même, la vision de quelques monuments posthumes venait hanter son imagination. Tout ce que nous venons de rapporter nous autorise à supposer qu'Ivan Ilitch était ambitieux, bien que parfois, certaine anxiété lui fit enfouir momentanément, en un coin obscur de son âme, les quelques vagues rêves qu'il avait faits. En un mot, c'était un homme bon et même poète dans l'âme. Cependant, ces dernières années ayant été, plus que de coutume, hantées par les accès maladifs dont il fut question plus haut, le général, devenu irritable et méfiant, avait fini par considérer comme une offense chaque objection qu'on lui faisait. Sur ces entrefaites, un semblant de renaissance s'était manifesté en Russie, donnant de grands espoirs à M. Pralinsky, espoir que le grade de général porta à leur apogée. C'est alors que, redressant la tête, Ivan Ilitch commença à parler éloquemment sur les idées en cours qu'il avait rapidement faites siennes. Toutes les occasions de se produire lui paraissaient bonnes. Il s'était mis à courir par la ville et avait rapidement acquis une renommée libérale, ce qui, par parenthèse, le flattait beaucoup. Aussi, le soir où débute notre histoire, après 4 coupes de champagne, son talent oratoire commençant à se manifester particulièrement, le jeune général s'était mis en tête de convaincre Stefan Nikiforovitch qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, mais pour lequel il avait toujours conservé ses habitudes d'obéissance et de respect. Sans concevoir pourquoi, considérant soudain son ex-supérieur comme un être rétrograde, il s'attaqua à lui avec acharnement. Le vieillard ne répliquait point, mais écoutait d'un air sournois, car le sujet l'intéressait beaucoup. Ivan Ilitch s'enflammait de plus en plus, et dans la chaleur de la discussion qu'il s'imaginait soutenir, goûtait plus que de raison à sa coupe de champagne. Pendant qu'il parlait, Stefan Nikiforovitch prenait en tapinois la bouteille et aussitôt remplissait la coupe, ce qui finit par indigner Ivan Ilitch, d'autant plus que Semen Ivanovitch Chipolenko, qu'il détestait particulièrement pour son cynisme et sa méchanceté, se taisait traîtreusement et se bornait à sourire. « Mais je crois qu'ils me prennent pour un gamin !» songea soudain Ivan Ilitch. « Non, il est temps, grand temps, continua-t-il irrité. Nous sommes bien en retard et, à mon point de vue, un peu d'humanitarisme vis-à-vis de nos subordonnés, qui sont des hommes comme nous, est indispensable. Cela seul peut sauver la nef gouvernementale. Hi, 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 fit Semen Ivanovitch. Mais pourquoi enfin nous grondez-vous ? Insinua doucement Stéphane Nikiforovitch, qui souriait aimablement. J'avoue, Ivan Ilitch, que jusqu'ici, je n'ai rien pu saisir de ce que vous avez bien voulu nous expliquer. Vous parlez d'humanitarisme. Est-ce bien à l'amour du prochain que vous voulez faire allusion ? Oui, oui, sans doute, mais moi, permettez. Autant que j'en puisse juger, l'affaire n'en reste point là. L'humanitarisme a toujours été indispensable dans les relations d'homme à homme, mais les réformes vont bien plus loin. Voilà que surgissent les questions paysannes, juridiques, économiques, morales, des questions de rachat de biens, etc., etc. Bref, des questions sans fin, des tas de questions qui, toutes ensemble, sont capables de créer certains malaises. Voilà ce que nous craignons, et non pas votre humanitarisme. Oui, oui, parfaitement. L'affaire se trouve engagée bien plus profondément, murmura d'un air docte Semen Ivanovitch. L'intervention du personnage détesté eut le don d'exaspérer notre orateur. Je saisis très bien votre objection, et permettez-moi de vous faire comprendre, Semen Ivanovitch, que je tiens nullement à rester en arrière de votre pensée, dit-il avec un sourire ironique. Mais je prends cependant la liberté de vous faire remarquer, et à vous aussi, Stéphane Fikirovitch, que vous ne semblez point me comprendre. Non, non, je ne comprends pas, dit l'hôte. Et cependant, je tiens à mon idée et ne cesserai de l'inculquer à tout le monde. C'est bien l'humanitarisme appliqué à nos subordonnés, depuis le fonctionnaire jusqu'au scribe, depuis le scribe jusqu'à l'huissier, et depuis le valet jusqu'au moujik. Cet humanitarisme seul, dis-je, qui pourra servir de pierre angulaire aux réformes indispensables à la renaissance de notre pays. Pourquoi, me demandez-vous ? Parce que... Il s'arrêta un instant. Écoutez bien ce syllogisme. On m'aime, et par conséquent, on a confiance en moi. On a confiance en moi, donc on croit en moi. On croit en moi, par conséquent, on m'aime. Enfin, c'est-à-dire, non, je veux dire que, si l'on croit en moi, on prêtera confiance aux réformes que je préconise. On comprendra le sens de la chose elle-même, ce qui fait que tout le monde s'embrassera, moralement bien entendu, et toutes les affaires seront résolues amicalement. Un ricanement de M. Chipoulenko fit sursauter Ivan Ilitch. Mais pourquoi riez-vous, Semen Ivanovitch ? N'est-ce point incompréhensible ? L'interpellé resta silencieux, parut fort étonné, leva les sourcils, puis « Oui, j'ai comme une idée d'avoir trop bu, remarqua-t-il, plein de fiel. Par conséquent, il m'est un peu difficile de saisir le sens de votre discours. C'est une sorte d'éclipse du cerveau, ajouta-t-il avec un rire moqueur. Ivan Ilitch fut soulevé de fureur. Mais sommes-nous seulement de force à supporter, endurer tout cela ? Intervint soudain Stéphane Fikirovitch. Cette phrase énigmatique plongea Ivan Ilitch dans la stupéfaction. C'est-à-dire, que voulez-vous dire par là ? Demanda-t-il, étonné par la remarque aussi brève que soudaine de son ex-supérieur. Supporter quoi ? Mais tout cela n'est-il pas au-dessus de nos forces ? Murmura l'autre qui semblait ne point vouloir s'étendre davantage. L'état de surexcitation dans lequel il se trouvait fit que le jeune général crut avoir surpris un regard malicieux que le supérieur lançait à M. Chipoulenko, en qui Ivan Ilitch découvrait maintenant un ennemi personnel. Bien mieux, il se figurait même avoir saisi un clignement d'yeux dans la direction de la bouteille. « Vous faites sans doute allusion au vin nouveau, » répliqua Ivan Ilitch, Tranquillisez-vous, en ce qui me concerne, je réponds de moi. » La pendule sonna 11h30. « Il faudrait peut-être partir, » intervint Semen Ivanovitch en s'apprêtant à quitter la place. Mais Ivan Ilitch l'avait déjà devancé. Saisissant son bonnet de zibeline qui reposait sur la cheminée, M. Pralinsky lança autour de lui des regards courroucés. Alors, vous allez y réfléchir, n'est-ce pas, Semen Ivanovitch ? Dit l'hôte en accompagnant ses visiteurs dans la direction de l'antichambre. Ah oui, vous voulez parler de l'appartement ? Oui, oui, j'y songerai. Vous me ferez savoir votre décision, n'est-ce pas ? Toujours les affaires, insinua M. Pralinsky avec une aimable négligence. Occupé à jouer ostensiblement avec son bonnet, il s'était figuré que l'autre le tenait pour quantité négligeable. Sa remarque resta sans réponse. Stéphane Nikiforovitch voulant par là faire sentir à ses visiteurs qu'il ne les retenait plus. M. Chipoulenko, qui avait compris, salua hâtivement. « Tant pis alors, si vous voulez pas comprendre une simple amabilité, » se dit en lui-même, M. Pralinsky. Et il tendit la main à Stefan Fikorovitch avec un geste empreint d'une certaine indépendance. Dans l'antichambre, le jeune général, tout en faisant semblant de ne pas remarquer les ratons usés de Semen Ivanovitch, s'emmitoufla dans sa fourrure, aussi chère que légère et chaude. Les deux dignitaires descendirent l'escalier. « Le vieux a l'air fâché, » dit M. Pralinsky. « Fâché ? Mais pourquoi voulez-vous donc qu'il soit fâché ? » dit l'autre d'un ton calme et froid. « Brute, soja, il dit tout. » Mais sous le péristyle, ils virent un traîneau attelé d'un vieil étalon gris qui attendait M. Chipoulenko. « Mais que diable, où est donc passé cet imbécile de Trifon avec ma berline ?» s'écria Ivan Ilitch. Malgré les longues recherches qui suivirent, la voiture demeurait toujours invisible. Le serviteur de Stefan Nikiforovitch ne pouvait expliquer cette disparition, non plus que Bartholomé, cocher de Semen Ivanovitch, dont la réponse fut que, étant toujours resté là, il avait vu la berline et puis ne l'avait plus vue. « Quelle vilaine histoire !» dit M. Chipoulenko. « Alors voulez-vous que je vous emmène ?»« Ah, les sales gens !» hurla M. Pralinsky, pris d'une rage subite. « Cette canaille de Trifon m'avait demandé la permission d'aller à la noce d'une commère quelconque. Que le diable l'emporte ! Je lui avais pourtant sévèrement défendu. Ah, cependant, je parie qu'il est allé là-bas. »« Oui, c'est vrai !» dit Bartholomé. Et même avant d'y aller, il avait bien promis d'être de retour dans quelques instants. Attends un peu, donnez-le donc au commissariat et faites-lui donner le fouet, dit Semen Ivanovitch, qui déjà s'entortillait les genoux avec le tablier de cuir de son traîneau. Je vous remercie de vos conseils et vous prie de ne point vous déranger, Semen Ivanovitch. Alors vous ne voulez pas que je vous emmène ? « Non, merci bien, et bon voyage !» Semen Ivanovitch partit. M. Pralinsky descendit sur le trottoir de bois et s'en alla droit devant lui en proie à une véritable irritation. « Attends un peu, canaille de Trifon !» maugréait le général. « Oh, je veux que tu comprennes et que tu aies peur !»« Ah, la canaille, oh, je donnerais bien quelque chose pour voir la figure que tu vas faire en apprenant à ton retour que monsieur est parti à pied. » Le parfait gentleman qu'était Ivan Ilitch n'avait jamais jusqu'ici employé le terme aussi grossier. Mais cette fois-ci, il se sentait au comble de la fureur, et au surplus, quelques fumées embrumaient son cerveau. Comme il n'était pas buveur, les 5 ou 6 coupes de champagne avaient vivement produit leur effet. La nuit était splendide. Il gelait, mais le temps était calme et sans brise. Le ciel clair était tout couvert d'étoiles et la pleine lune déversait sur la terre sa lumière argentée. Il faisait si beau respirer qu'après une cinquantaine de pas, Ivan Ilitch avait complètement oublié les méfaits de son cocher. Il se sentait très bien et, comme tous les hommes un peu partis, qui changent vivement d'impression, le général commençait déjà à se plaire parmi les misérables maisonnettes en bois qu'il voyait s'aligner le long du trottoir. « Eh bien, j'ai vraiment eu une excellente idée en partant à pied, » songea-t-il. « Au demeurant, ça servira de leçon à Trifone. C'est pour moi un grand divertissement, je dis mieux. Il me faudrait souvent faire des promenades pareilles. » Ragaillardi par le petit froid sec, le dignitaire faisait sonner ses talons sur le trottoir. « Quelle belle nuit !» Et quelle pauvre maisonnette ! S'enthousiasmait M. Polalinski, attendri. Leurs habitants, quelques petits fonctionnaires, sans doute. Des marchands, et peut-être... Oh, ce sacré Stéphane Nikiforovitch, quel rétrograde ! Quel vieux bonnet de coton vous faites, mon ami ! Je dis bien, vieux bonnet de coton ! C'est le mot propre, le mot qu'il faut, et cependant, cet homme ne manque point d'intelligence. Il a du bon sens, la compréhension claire et pratique des choses. Mais en revanche, quel vieillard ! Quel vieillard, mon Dieu ! Il ne possède pas... Comment dire ? Oui, c'est ça. Il n'a pas grand-chose. Il n'a pas cette chose. Pendant qu'il cherchait le mot approprié, le général se souvint des paroles énigmatiques de son supérieur. « Nous n'endurerons point », avait-il dit. Mais que signifiait donc cette expression ? Et qu'est-ce qu'il avait voulu dire par là ? Et encore, il semblait absorbé en prononçant ces mots. « Bon, du reste, il est certain qu'il n'a rien compris de ce que je disais », ajouta M. Polalinski. « D'ailleurs, peu m'importe, le principal est que moi-même, je sois convaincu. L'humanitarisme, l'amour du prochain... Rendre l'homme à lui-même, faire naître en lui la conscience de sa propre dignité, et alors s'élancer dans l'action avec ce matériel tout neuf. Frappé par la lumineuse clarté qui jaillissait pour lui de ses propres paroles, le dignitaire s'arrêta comme sidéré, puis prenant un air de triomphe, il s'adressa à l'adversaire invisible. « Oui, mais permettez votre excellence, encore un syllogisme. Voici par exemple un fonctionnaire pauvre et hébété. Je lui demande « Qui es-tu ?» Réponse « Un fonctionnaire. »« C'est bien, mais quel fonctionnaire ?» Réponse « Un fonctionnaire tel ou tel. »« Où sers-tu ? » »« Je sers. »« Veux-tu être heureux ?» Oh, je le veux bien. Que te faut-il pour ton bonheur ? Ah, cela et encore cela. Et pourquoi faire ? Parce que... Une explication sincère s'ensuit, et voilà que l'homme me comprend. Il m'appartient parfaitement, votre excellence. J'ai pris cet homme dans mes filets, je ferai de lui tout ce que je voudrais, et cela pour son bien même. Sa pensée s'étant encore une fois égarée sur le terrain de la dialectique, Ivan Ilitch revit soudain le visage ricanant de M. Chipoulenko. « Oh, quel dégoûtant personnage que ce Semen Ivanovitch ! » s'écria-t-il, « et quelle sale physionomie il a ! Mais conduisez-le donc au commissariat et faites-le fouetter » a-t-il osé insinuer ? Mais je suis persuadé qu'il a dit cela dans le seul but de m'humilier. Non, 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 mon ami, gardez vos conseils pour vous. Merci. Je ne fouetterai pas personne, mais ma parole suffira amplement pour faire comprendre à Trifone le méfait qu'il a commis. Oh, ce qui concerne le fouet, c'est une question qui ne peut être résolue séance tenante. L'importance de ce dernier problème arrêtant les réflexions du général, il tenta de l'esquiver. Un tout autre terrain se présentait aussitôt. Si j'allais rendre visite à Émérance, se demanda-t-il avec un sourire égrillard. Mais la réponse ne vint pas, car le dignitaire avait failli se tordre le pied. « Sale trottoir !» bougonna Ivan Ilitch. « Et on prétend que c'est là une capitale ? Quelle civilisation, mon Dieu ! On peut se casser bras et jambes. Que je déteste ce faquin de Seman Ivanovitch. Une figure parfaitement ignoble. Et comme il riait quand je disais que l'on s'embrasserait moralement. Oui, parfaitement, on s'embrassera. Et en quoi ça te regarde-t-il? Ce n'est point toi que j'embrasserai, un moujik plutôt. Si je rencontre un moujik, je vais lui parler. Du reste, j'étais ivre, je ne m'exprimais certes pas clairement. Maintenant même, je peux peut-être pas mieux. Je ne veux plus jamais boire. On cause le soir et le lendemain on le regrette. Pourtant, je marche bien droit. Au demeurant, sont tous des canailles. Ivan Ilitch continuait ainsi à lancer des phrases brèves et dénuées de sens. Il longeait le trottoir, l'air frais agissait sur lui, et au bout de 5 minutes de marche, le général semblait calmé. Soudain, arrivé à quelques mètres de la grande perspective, Ivan Ilitch entendit de la musique et se retourna. De l'autre côté de la rue, dans une maison en bois, à un étage, vieille, longue, des violons s'exprimaient, une flûte s'égosillait et la contrebasse ronflait dans un air de quadrille. Une petite foule se pressait devant les fenêtres éclairées. Des femmes en manteaux ouatés, avec des fichus sur la tête, faisaient des efforts pour distinguer quelque chose à travers les fentes des volets. On avait l'air de bien s'amuser à l'intérieur, et le bruit des pas des danseurs arrivait jusqu'aux oreilles d'Ivan Ilitch, qui, apercevant un agent de police, s'approcha de lui. « À qui donc cette maison, frère ?» questionna-t-il, en échancrant son col de fourrure juste assez pour que l'agent pût distinguer la cravate de commandeur qui ornait son cou. « C'est la maison du fonctionnaire Pseldonimov, » répondit le gardien de l'ordre, droit comme un nid, car il venait de remarquer la décoration. « Pseldonimov, Pseldonimov, il se marie donc ?»« Oui, votre excellence, il épouse la fille du conseiller titulaire, Mamudiferov. Cette maison lui est donnée en dot. » « Alors la maison n'appartient plus à Mamiferov, mais à Pseldonimov ?»« C'est cela même, votre excellence. Elle appartenait à Mamiferov ce matin encore, mais maintenant elle a passé à Pseldonimov. Oh, je te demande cela, frère. Je demande tout cela, frère, parce que je suis son chef. Je suis général dans le bureau où Pseldonimov à son service. C'est cela même, votre excellence. » L'agent sembla s'allonger encore, et Ivan Ilitch prit un air pensif. Il semblait combiner quelque chose. En effet, Pseldonimov appartenait au service qu'il dirigeait. Le dignitaire se rappelait bien ce petit gratte-papier payé 10 roubles par mois. Bien que M. Pralinsky eût pris depuis quelques jours seulement la direction des services, et qu'il ne put se rappeler les noms de tous ses subordonnés, celui de Pseldonimov, grâce à sa consonance aussi étrange qu'inattendue, était cependant entré des premiers dans sa mémoire. Le général ayant exprimé le désir de voir de près le possesseur d'un nom pareil, on l'avait fait venir. Ivan Ilitch vit un tout jeune homme au nez long et crochu, aux cheveux fadas et poussant par paquets, un être mal nourri, mal habillé, d'un uniforme impossible et culotté d'un pantalon qui frisait l'inconvenance. M. Bradlinski se souvenait de tout cela et même de la pensée qui lui était venue alors à la vue de cette caricature. Ne faudrait-il point donner à ce pauvre diable une dizaine de roubles à titre de gratification, afin qu'il puisse s'habiller convenablement ? Et comme le malheureux semblait un vrai carême prenant, et de plus avait un regard peu sympathique, cette bonne résolution s'était évaporée aussitôt, et Pseldonimov, n'ayant point reçu de gratification, était demeuré gueux comme par le passé. Le général avait été bien plus étonné encore quand, il y a 8 jours, le même Pseldonimov lui avait soumis une demande d'autorisation de mariage. Ivan Ilitch se souvenait bien maintenant que, sans prendre le temps d'examiner l'affaire, il avait aussitôt accordé ce permis. Il avait cependant retenu un détail. La fiancée apportait en dot une maison en bois et 300 roubles en espèces. Tout cela continuait à hanter la mémoire de Pralinski. Celui-ci eut l'air de se plonger dans des réflexions extraordinaires. On sait que des raisonnements entiers traversent parfois nos cerveaux avec une vitesse vertigineuse. Se présentant à nous sous la forme de sensations, non seulement ils ne peuvent être formulés sous une forme littéraire, mais encore, nul idiome humain ne saurait rendre leur signification exacte. Sans nous arrêter devant les difficultés de cette tâche, nous essaierons cependant d'interpréter, sinon le sens entier des idées de notre héros, du moins ce qu'il y avait en elle de moins saugrenu. Il va sans dire que les pensées, les sensations d'Ivan Ilitch manquaient un peu de logique, mais vous n'êtes pas sans connaître la cause de ce flottement. Mais il arrive que nous disons des quantités de choses, songeait M. Pralinski, mais au moment de les réaliser, nous reculons. Prenons par exemple ce Pseldonimov. Il revient de l'église, tout tremblant d'émotion. Il espère goûter du fruit jusqu'alors défendu. Bien entendu, c'est un des plus beaux jours de sa vie. Il s'occupe de ses convives, prépare un festin, qui, bien que simple et pour ne pas dire pauvre, ne manquera ni de joie ni de sincérité. Et qu'arriverait-il donc si, à ce moment même, il apprenait que moi, son chef direct et principal, je suis là, devant sa maison, à écouter la musique. Au fait, qu'arriverait-il alors ? Non, mais que se passerait-il, je vous le demande, si tout d'un coup il me prenait l'idée d'entrer chez ce pauvre diable ? Mais muet de terreur et d'émotion, Pseldonimov serait capable de tomber à la renverse. Et mon entrée, sûrement, pourrait tout déranger. Oui, il en serait ainsi au cas où un autre général que moi entrerait chez Pseldonimov. Oui, un autre général, mais pas moi. En effet, n'importe qui, mais pas moi. Oui, Stefan Nikiforovitch, oui, vous, qui il y a qu'un instant sembliez ne pas me comprendre. Tenez, voici un exemple fait pour vous crever les yeux. Fort de son prestige imaginaire, il est vrai, mais auquel cependant le narcissisme moral du jeune dignitaire prêtait certains aspects de réalité, Ivan Ilitch prenait des airs vainqueurs. Oh, nous tous, qui parlons d'humanitarisme, sommes-nous seulement capables d'accomplir un acte héroïque ? Oui, mais où donc se trouve l'héroïsme dans tout cela, me demandez-vous ? Eh bien, écoutez-moi. Étant donné les relations actuelles des membres de la société entre eux, que diriez-vous d'un conseiller d'État effectif qui aurait soudain l'idée de se présenter à la noce d'un de ses subordonnés, un gratte-papier à 10 roubles par mois, et à 1 heure du matin par-dessus le marché ? Que diriez-vous, Stefan Nikiforovitch ? Malgré le respect qu'il nourrissait involontairement pour son supérieur, Ivan Ilitch devenait peu à peu sarcastique. « Ah oui, on ne manquerait pas de crier au scandale, on traiterait cet acte de folie, On hurlerait à la fin du monde, au dernier jour de Pompéi, que sais-je. Personne ne serait en état de comprendre, pas même vous, Stefan Nikiforovitch, qui pourtant paraissait être un homme intelligent. Car aucun de ces hommes du passé, ces paralytiques imbéciles, ne serait capable d'accomplir l'acte que je vous propose. Eh bien, moi, je m'en charge. Je me charge de transformer le dernier jour de Pompéi, comme vous dites, en la plus belle journée de la vie de mon malheureux subordonné. L'acte que vous qualifiez d'insensé sera par mes soins transformé en un événement historique d'une portée morale incalculable. Comment m'y prendrai-je, demandez-vous? Eh bien, veuillez écouter. Supposons donc que vous me voyez entrer chez Pseldonimov. Qu'arrive-t-il alors? Stupéfaction générale, d'abord, bien entendu. Les gens de la noce interrompent instantanément leur danse. Ils s'arrêtent, ouvrent de grands yeux épouvantés et reculent tels les vagues au reflux. Oui, mais c'est alors que je me sers de tout mon tact pour les calmer et les mettre à leur aise. Je vais trouver Pseldonimov qui me contemple tout tremblant de peur. Et tout en esquissant mon plus cordial sourire, je lui fais un petit discours très simple. Bon, me voici, lui dis-je, je viens de chez son Excellence Stefan Nikiforovitch. Je suppose que tu n'es pas sans le connaître, il habite dans le voisinage. Et aussitôt, j'entame un petit récit humoristique, destiné à mettre tout le monde à son aise. Rien de tel que le comique pour faire disparaître la gêne. Je compte mon aventure avec Trifon, ainsi que le petit voyage à pied auquel j'ai dû me résoudre. Vous vous saisissez, n'est-ce pas? Tenez, voici un exemple de mon humour. Soudain, j'entends la musique. J'interroge l'agent de police et j'apprends que tu es en train de célébrer tes noces. Une idée me vient, je me dis, allons faire une visite à mon brave subordonné pour voir comment s'abuse mes fonctionnaires et comment ils se marient. Ici, je place un petit sourire à double sens, et tout en lançant un regard galant aux dames, je reprends. J'espère que tu vas pas me chasser. Chasser, en voilà un mot pour un subordonné. Non seulement il ne me chasse pas, mais bien au contraire, il en devient autant dire fou. Il s'empresse autour de moi, apporte un fauteuil et, tout tremblant de joie, il se sent incapable d'apprécier le bonheur qui lui échoit. Que peut-on trouver de plus simple, de plus élégant que cette action? Ah, vous me demandez pourquoi je suis entré? Oh, cela c'est une autre question, une question qui, pour ainsi dire, comporte le côté moral de cette affaire. Arrivé au bout de son rouleau, le général poussa quelque temps significatif. Ah, de quoi voulais-je donc parler, dit-il en se passant la main sur le front. Ah oui, oui. Alors, on me fait place auprès d'un invité de barque, un quelconque conseiller titulaire, ou bien encore un capitaine en second retraité et pourvu d'un appareil nasal violacé. Quelle belle page Gogol a écrite au sujet des gens de cette espèce! Puis je fais connaissance avec la jeune mariée et, bien entendu, je lui dis quelques mots aimables. Je ne manque pas non plus d'encourager les danseurs. Je leur demande de continuer leurs ébats. Et j'ajoute avec un petit rire bon enfant. Comme si j'étais pas là, mes enfants, comme si j'étais pas là. Je fais de l'esprit, je ris, bref, je suis très aimable, comme je sais l'être dans des moments de veine. Enfin, c'est-à-dire que je crois que j'ai encore un peu trop bu. Cette constatation l'ayant amené à faire une petite pause, le général reprit peu après. Il reste entendu qu'en ma qualité de gentleman, je condescends à ne leur demander aucun signe extérieur de respect. Mais moralement, c'est une toute autre affaire. Mon acte fait ressusciter en eux un sentiment ancien et noble, ils comprennent, ils apprécient. Je reste assis une demi-heure, une heure peut-être, puis je m'en vais avant le souper. On m'y a pourtant invité, on m'a demandé avec insistance de rester, mais je décline leur offre en disant « Oh, vous comprenez bien, n'est-ce pas? Les affaires m'appellent, elles m'obligent à me retirer. » Je me contente simplement de vider une coupe en l'honneur des mariés. Le ton digne et le mot à faire font que les figures redeviennent respectueusement sévères. Ce mot magique leur rappelle délicatement tout ce qui me sépare d'eux. Il souligne la distance qui existe entre eux et moi, de la terre au ciel. Ce n'est pas que je veuille leur en imposer, mais cette réserve demeure indispensable pour la signification morale de mon acte. Du reste, aussitôt après, je retrouve mon sourire, je plaisante même un peu pour les encourager. Encore quelques compliments à la mariée. Que pourrais-je lui dire? J'ai trouvé. Je fais allusion à une visite que je lui ferai dans 9 mois en qualité de parrain. Entre nous, je suis persuadé que d'ici là, elle aura accouché. Cela se multiplie comme des lapins. Enfin, un rire général accueille ma plaisanterie. La jeune mariée rougit avec beaucoup d'à-propos. Et je m'en vais dignement, emportant avec moi les cœurs de tous ces braves gens. Et le lendemain, savez-vous ce que peut être le lendemain? Le lendemain, tous les services apprennent et apprécient mon héroïsme. Et bien que je sois redevenu sévère, inflexible même, tout le monde me connaît, sait qui je suis. Ils disent en parlant de moi, « Bon, comme chef, il est sévère, mais comme homme, c'est un ange. » Et voilà ma victoire, voilà ma bataille gagnée. Elle fait que j'ai conquis les cœurs de tout ce monde. Je suis le père, eux sont mes enfants. Allons, votre excellence Stefan Fikolovitch, faites donc quelque chose de semblable. Savez-vous maintenant, comprenez-vous ce que cela veut dire ? Continua-t-il. Notez que Pseldonimov lui-même racontera plus tard à ses enfants qu'un général est venu à sa noce et qu'il y a même bu du champagne. Oui, il le dira à ses enfants, qui à leur tour le répéteront aux leurs. Longtemps encore on en parlera aux veillées, et cette simple petite histoire d'un dignitaire, d'un homme d'État, cette petite histoire s'élèvera à la hauteur des mythes sacrés. J'aurai relevé moralement un humilié, un pauvre diable. Je l'aurai rendu à lui-même tout en lui inculquant les plus beaux principes moraux. Et pour peu que je répète cette excursion 2 ou 3 fois, j'aurai acquis une popularité universelle. Mon nom sera inscrit dans tous les cœurs. Et le diable lui-même sait-il où mène la popularité? C'est ainsi que raisonnait Ivan Ilitch. Car que ne peut se dire un homme légèrement pris de boisson? Et toutes ces réflexions avaient traversé son cerveau en moins d'une minute. Le dignitaire se serait peut-être contenté de ses rêves et après avoir confondu moralement Stefan Nifikorovitch, aurait tranquillement regagné le chemin de sa maison, ce qu'il avait certes de mieux à faire. Mais le malheur voulut que cette minute fût une minute excentrique. Comme un fait exprès, à ce moment même, l'imagination d'Ivan Ilitch lui peignit les figures satisfaites de Stefan Fikorovitch et de Semen Ivanovitch. Nous n'aurons pas le courage, pas cette force. Pas cette force, répéta Stefan Fikorovitch. Le ton était fielleux et le rire narquois. Hi hi hi, accompagnait Semen Ivanovitch, et ce rictus finit par exciter la rage du jeune général. « Nous allons voir si j'aurai pas le courage, » dit Ivan Ilitch d'un air décidé. Le sang lui montait à la tête. Il quitta le trottoir et d'un pas ferme traversa la rue pour entrer dans la maison de son subordonné, le registrateur pseudonymov, le tchinovnik de quatrième classe.